Again Blue, Françoise Corday, réalisateuse, Marie-Dominique Bougot, ingéniatrice du son, Georges Stanislas Pakczynski, pianistologue et drumiste, se joignent à moi pour vous souhaiter la bienvenue dans cette émission dominicale. Pour commencer, suite de mon petit tour d'horizon du jazz vocal, par le travers et le petit bout de la lorgnette, aujourd'hui, Mel Tormé. Des critiques au sujet des musiciens ne sont pas toujours très amènes, mais dans ce domaine, les pires langues de vipère, sans aucun doute, ce sont les musiciens eux-mêmes. De l'éreintage, Miles Davis, et chez les vocalistes Dinah Washington, s'était fait une spécialité, ainsi qu'en témoignent leurs commentaires au célèbre blindfoldesque durant des décennies, Leonard Feather conduisit au bénéfice de la revue Downbeat. Or, je n'ai pas souvenir que les foudres de Dinah se soient jamais abattues sur Mel Tormé. Dans les appréciations qu'elle a portées sur les uns et les autres, Betty Carter a laissé tomber le couperet sur bien des gens, elle aussi, notamment sur tous ceux et toutes celles en qui elle voyait des suiveurs de Billie Holiday par exemple, posture qu'elle a dénoncée tout au long de sa carrière avec la même constance que Lester Young, grand pourfendeur de ceux qu'il appelait des copycats. En revanche, elle précisera à l'un de ses interlocuteurs « Jamais vous ne m'avez entendu dire le moindre mot désobligeant au sujet de Mel Tormé ». En cela, au moins, elle, si soucieuse de se distinguer dans l'exercice de sa profession, ne faisait pas bande à part. Vocalistes ou instrumentistes, noirs ou blancs, hommes ou femmes, les grands artistes de jazz américains, à très peu d'exceptions près, et encore, sans fouiller mes dossiers, je serais bien en peine d'en citer une seule, n'ont jamais ménagé leurs éloges à ce confrère, en lequel ils voyaient à la fois un crooner d'exception, un homme de swing et à ses heures un redoutable scatter comme pouvait l'être Anita O'Day qui, comme lui, avait fait ses classes dans le contexte d'un jazz sur lequel le bebop n'avait encore eu que peu de prise. Ses grands débuts, Anita les fit chez Gene Krupa en 1941, elle avait 21 ans. Tormé, de 6 ans son cadet, mais qui chantait à la radio dès l'âge de 4 ans, ainsi qu'au restaurant du Faucon Noir de Chicago avec le Coon Sanders Band. Il se produisait assis sur les genoux du batteur Carlton Coon. Tormé, qui avait composé à 15 ans ses premières chansons, avait été engagé comme batteur et vocaliste par Chico, l'un des Marx Brothers, en 1942, avant de monter son premier groupe vocal 2 ans plus tard, Mel Tormé and His Mel Torn, à la tête duquel il enregistrera en 1945 et 1946 en compagnie d'Artie Shaw. Melvin Howard Tormé est né à Chicago en 1925 dans une famille juive qui tirait le diable par la queue et encore, comme dirait l'autre, pas tous les jours. Une famille si pauvre en vérité qu'en dépit de la couleur de sa peau, elle avait été contrainte de s'installer dans un voisinage où s'entassait une partie du prolétariat noir de la ville. Si bien qu'avant l'âge de 6 ans, confiera-t-il, notre homme aura vu autour de lui bien plus de visages noirs que de blancs. Sa mère jouait du piano et lui vit prendre des leçons avec une dame de couleur prénommée Alberta, laquelle approchait les 150 kilos et qui était en charge du clavier dans un groupe semi-professionnel strictement féminin. Mel s'est toujours souvenu d'elle avec émotion quand il eut, d'après ses propres souvenirs, 11 ou 12 ans, lui qui avait toujours été sensible au jazz et dont, je le cite, le premier jouet avait été un poste de radio, se mit à collectionner avec le plus grand sérieux, c'est-à-dire en connaisseur avisé, des disques de cette musique que l'on appelait pas encore afro-américaine, King Oliver, Louis Armstrong, Bessie Smith. Au milieu des années 40, il ne fallait pas s'attendre à le rencontrer dans l'entourage de Dizzy Gillespie, mais c'était un garçon aux oreilles largement ouvertes sur ce qui se passait et se mijotait dans le monde musical alentour et qui s'autorisait avec bonne humeur quelques audaces à sa façon, dans sa façon d'harmoniser les voix. Et puis aussi, dans certains arrangements, dont une célèbre version de « It Happened in Monterey » gravée sous son nom au milieu des années 40 avec la formation de Sonny Burke et dans laquelle la mélodie de Ramona était utilisée en guise de contrepoint. Quant au scat, on découvrira grâce à une pièce de 1947 intitulée « That's Where I Came In » et dont il était le compositeur, qu'il n'avait pas été le genre de garçon à laisser perdre la leçon toute fraîche de Dave Lambert et Buddy Stewart. L'interprétation d'ailleurs est émaillée de quelques bebop aisément repérables, et puis écoutez ce que je voulais cuivre ici et là. John Hendrix a déclaré « Tous les grands chanteurs de jazz sont capables de scatter, Mel Tormé, lui, est un formidable chanteur de scat. » D'ailleurs, nous y reviendrons un de ces vendredis.
It didn't happen in Montana, didn't happen in Havana, didn't happen in Atlanta, GA. It happened in Monterey. Long time ago, it happened to happen in Monterey, Mexico.
Stars and steel guitars and luscious hips as red as wine
stole somebody's heart and it was mine. It happened in Monterey without thinking twice.
I left her and threw away
the key to paradise. My indiscreet heart longs for the sweetheart I met in Monterey. Hey! Way!
Down upon the Rio Grande
I met a little chick from the town of Pomona.
So ginger dandy that when I fell, I really fell.
Do you recall the lady's name?
It was Ramona.
Happened
Ramona,
I hear the mission bells above.
Ramona,
it
they're ringing out their songs of love.
The stars are still good.
And everything was
red as wine.
And then you
stole somebody's heart, and it was mine. I really had myself a time in Monterey.
I can hardly wait till I'm back in Monterey. 'Cause I got the urge to go back to Ramona, even though
she broke my heart, it fell apart. But now I find she's on my mind. What can I do but follow through? I'm gonna hurry back to Monterey, Mexico.
Thank you.
Dormé à ses Meltones en 1945 ou en 1946, les discographes restent dans l'incertitude à ce sujet. Dans un It Happened in Monterey, dont la partie vocale avait été arrangée par ses soins, comme celle de That's Where I Came In, réalisée en 1947, qui venait ensuite, rappelons que ne pas être en retard sur son temps pour un groupe vocal, c'était déjà être en avance sur 99 sur 100 de ses concurrents. Georges, maintenant vous poursuivez vos pérégrinations pianistiques.
Pianistique.
À travers, je suppose, un thème bien précis, comme dans les émissions précédentes.
Alors écoutez, nous en sommes maintenant un peu loin, parce que nous arrivons à notre neuvième volet. On avait commencé avec Bill Evans en trio, souvenez-vous les pièges que vous m'aviez tendus. Ce n'était pas les trios de Bill Evans, mais Bill Evans en trio. Ensuite, il y a eu Kenny Werner et la maîtrise sans effort. Après, nous avons fait une émission sur l'art du toucher avec Enrico Piranusi et puis le livre de Bertrand Hoth, Liszt et la pédagogie du piano. Ensuite, nous avons fait une autre émission sur l'art de la résonance avec Fred Hirsch. L'art du silence, une autre émission encore. On avait évoqué Monk, John Lewis, Ahmad Jamal, Paul Bley. L'art de la virtuosité, souvenez-vous Alain, il y avait Art Tetum bien sûr, Oscar Peterson, Bud Powell, Vladimir Horowitz évidemment. Ensuite nous avions basculé dans l'art de la lenteur, c'était Mark Copland, Bill Carothers, et puis il y avait les trios des batteurs Jeff Hamilton et de Peter Haskin. On avait parlé de l'art du son, c'était la dernière fois avec Oscar Peterson encore, Kenny Barron, Emil Gilels qui nous avait accompagnés. Et voici un art, imaginez-vous Alain, qui nécessite la présence de tous les arts que nous venons de travailler devant nos auditeurs. Ce serait un peu ce qu'on pourrait appeler l'art de la couleur, ou plus exactement l'art de la mélodie. Alors la mélodie c'est quoi? Vous savez quand j'ai posé la question, j'en ris d'avance parce que j'ai dit à notre ami Georges Plodermacher, tu sais je fais une émission avec Alain sur la mélodie, dis-moi toi, qu'est-ce que tu penses des mélodistes? Alors il y a eu un grand silence, mais écoute, il y en a beaucoup, mais je vais pas te répondre tout de suite. Il s'est passé plusieurs jours, et puis un jour je reçois quelques jours après, un coup de téléphone, me dit, ça y est, alors tu commences l'émission comme ça, tu commences, il y a d'abord Bach, et après tous les autres, n'est-ce pas? Et les autres dans n'importe quel ordre. Il y en a de sublimes, mais Bach. Alors je me suis dit, allons-y, on va écouter quelque chose qui est sublime. C'est la partita numéro 2, Ré mineur, l'allemande, qui a été enregistrée par Nathan Milstein le 23 ou 24 mars 1954 à New York. Écoutez cette merveille. Thank you. Alors, mon cher Alain, maintenant, je vais vous poser une question. En fait, c'est pas une question, il y en a 14. Mais qui nécessite... qui nécessite qu'une seule réponse de votre part. je vais être franc avec vous. Il n'y a pas de piège, mais il va falloir que vous réfléchissiez très fort, n'est-ce pas? Il y a donc 14 questions et une seule réponse. Quel pianiste manifeste une immense joie de jouer? Quel pianiste montre un bonheur incommensurable sur scène? Quel pianiste prend le public à témoin de son bonheur? Quel pianiste est continuellement inspiré? Quel pianiste crée sans cesse des mélodies au cours de ses improvisations? Quel pianiste aime partager vraiment avec les autres? Quel pianiste nous emmène au pays des merveilles? Quel pianiste nous fait découvrir à la fois Blanche-Neige, Cendrillon et La Belle au bois dormant? Quel pianiste nous prouve que le bonheur existe bien ici-bas, n'est-ce pas? Quel pianiste met en lumière une générosité sans borne? Quel pianiste donne de lui-même sans compter? Quel pianiste a un sens de l'humour sans limite? Quel pianiste finalement nous donne une leçon de vie irremplaçable? Et quel est donc ce pianiste qui ne se déplace jamais sans son bottin, qu'il place toujours sur son siège?
Ah oui, mais la dernière précision fait qu'il n'y a presque plus de suspense, n'est-ce pas? En tout cas, si ce n'est pas Jacques Dieval, ça doit être Errol Garner.
Certainement, bravo, vous avez gagné, bien sûr, Alain. Bien sûr, Errol Garner.
Vous savez que ce n'est pas n'importe quel bottin, hein. Le bottin de la ville de Washington.
Ah, j'ignorais ce détail. Oui. Ah, j'ignorais ce détail, pourquoi?
C'est pour ça que c'est toujours le même, c'est pas un bottin qui récupérait dans sa chambre d'hôtel de ville en ville. Hein.
Ah, j'avais bien compris, mais c'est... précision géographique qui m'avait complètement échappé. Alors, donc, je me suis dit, il était impossible dans une émission consacrée au piano de ne pas évoquer ce musicien à lui tout seul et complètement à part. Alors, j'avais consulté le dictionnaire du jazz et l'article sur Errol Garner a été écrit par notre
Philippe
ami
Baudouin.
Philippe Baudouin. Et Philippe faisait bien remarquer un certain nombre de points qui m'avaient paru intéressants, qu'il avait d'abord, Garner avait donc une oreille et une mémoire phénoménale, un répertoire de basse constamment renouvelé, par des tempos, une harmonisation et des tonalités différentes, que sa main gauche marque les quatre temps en accord comme le ferait Freddie Green chez Count Basie, sa main droite subtile décalage qui dégage le swing, tout ça c'est bien connu de tout le monde, et puis il y a ce style un peu rhapsodisant, très arpégé sur tempo lent, une maîtrise de toutes les techniques du piano, alors ça c'est intéressant parce que évidemment il maîtrise le stride, les suites de dixièmes à la main gauche, le boogie-woogie, les blocs cordes, le travail harmonique, une sorte d'euphorie dans le swing, une aisance stupéfiante, une rapidité et souplesse de la main droite, une indépendance des mains, des citations, l'humour, on l'évoquait, de longues introductions, ça aussi c'est extrêmement intéressant, de longues introductions qui sont parfois d'une modernité tout à fait surprenante.
Ah oui, oui. N'est-ce oui, pas, oui. Vous quasi monkienne pour certaines
oui,
d'entre elles, pardon.
Oui, n'est-ce pas, hein.
Oui, oui,
et pour l'époque, d'une modernité tout à fait incroyable. Et puis...
redoutable d'ailleurs pour ses accompagnateurs, en particulier pour le contrebassiste, parce que comme il ne prévient pas de ce qu'il va jouer, alors, c'est à eux de le deviner, et alors, sur le premier temps, il ne faut pas se tromper quand alors, on intervient à la contrebasse.
Mais oui, mais justement, et il y a une vidéo incroyable, cette vidéo qui est une vidéo de la BBC de 1964, où vers la fin de cette vidéo, on voit qu'il fait une introduction absolument incroyable, puis le contrebassiste, il est là, il tient sa contrebasse à la main gauche, puis avec la main droite, il montre au public qui est présent dans la salle, il montre comme ça, il ne sait pas ce qu'il faut faire. Et l'autre continue, il rigole, tout le monde rigole dans la salle, n'est-ce pas, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Et bien entendu, il n'annonçait jamais les morceaux. Et puis, à des moments, hop, il lançait une petite phrase.
Il ne jouait jamais deux fois de la même manière, voilà. En dépit du fait qu'il fût en concert la plus grande partie des soirs de l'année, puisque c'est un homme qui a énormément travaillé tout au long de sa carrière.
Tout au long de sa carrière. Alors, tout ça étant dit, évidemment, il y a encore peut-être une chose qui est laissée source d'inspiration, comme nous le faisait remarquer Philippe, c'est évidemment Fats Waller, et puis tous ses disciples, Ahmad Jamal, Red Garland, Fania Snow, Borne, Carl Perkins. Philippe remarquait également que la critique l'a souvent descendu, si je puis dire, d'une façon un peu brutale, la phrase est peut-être un peu forte, mais il a été souvent critiqué puisqu'il était, on n'a jamais pu vraiment le cadrer, le mettre dans un cadre. Il n'était pas bopper, il n'était pas ceci, il n'était pas cela. Il avait
c'est
vraiment...
Bopper, mais il pouvait s'entendre avec les boppers, hein, comme il l'a prouvé, notamment côté de Charlie Parker, Cool Blues, mais aussi avec Wardell Gray.
C'est vrai. Et en même temps, après, son horizon n'était pas l'horizon des quintettes, des sextettes ou des quartettes. Il a tout de suite, très rapidement, trouvé sa formule. Et la formule du trio, et cette formule est quand même assez stupéfiante, parce que quand on regarde tous ses disques, dans aucun de ses disques, il n'y a de solo de contrebasse, ni de solo de batterie, quasiment, n'est-ce pas ? Il y en a peut-être un solo de batterie, peut-être très vaguement, mais vraiment, peut-être un solo de Gordon Spex Powell, et encore. Enfin bref, il n'y a pas, il y a pratiquement rien, quoi. Et donc, ce sont deux musiciens, le concept est donc extrêmement classique, alors comment se fait-il ? Et ça, c'est un paradoxe que je vous soumets, j'y réfléchis en même temps que vous. Comment se fait-il que cet homme, qui joue avec un concept musical très très ancien, enfin très classique, où le contrebassiste et le batteur sont au service du pianiste, comment se fait-il que cette musique soit hors du temps ? C'est-à-dire, elle, en dépassant un peu les considérations de Philippe, c'est-à-dire les considérations techniques ou musicologiques proprement dites, en allant au-delà, n'est-ce pas simplement ? Comment se fait-il que cet homme, avec un concept aussi très classique, puisse dépasser complètement, mais complètement, la notion de période, que c'est les années 50, 60, parce qu'il est quand même mort, il faut quand même bien dire, il est mort en 77 d'un cancer pulmonaire, il avait 56 ans. C'est assez incroyable, n'est-ce pas quand... voilà, cet homme qui a traversé la vie. Moi, c'est ça qui me fascine complètement. Il a traversé la vie. Comment il a fait pour traverser la vie comme ça ? Et je crois que c'est là-dessus qu'il faudrait que nous commencions notre émission.
Mais c'est une musique qui a le don de conserver l'appétit qu'elle a d'elle-même. Il n'y a pas d'effet de satiété devant son propre reflet. Et ça, c'est la commune mesure qu'elle a avec celle de Monk, justement. Ah. Un Monk était capable d'entendre sa musique à l'infini.
Et
Rogarner aussi. Sauf que Monk était parfois, et même souvent, assez bougon, apparemment.
Oui, absolument.
Pas toujours très heureux de ce qu'il entendait sortir de son piano. En tout cas, ça pouvait lui donner des idées qui étaient parfois des idées sombres.
Oui.
Alors que chez Garner, c'est une jubilation totale. Et on se demande précisément si c'est sa jubilation personnelle qui fait naître ce type de musique ou si c'est cette musique qui lui permet d'être un être en état de jubilation permanente.
Alors ça doit être les deux, certainement.
Mais je pense que oui, effectivement.
Absolument, c'est les deux.
C'est-à-dire qu'il avait inventé le mouvement perpétuel.
Voilà, il y a un aller-retour qui est incroyable.
L'effet était la cause, qui était la cause de l'effet, etc. etc.
Et naturellement, ça franchit la barrière du temps. C'est là où ça devient fascinant, c'est que nous ne sommes plus en train de nous dire « Ah, c'est parfait, mais nous sommes dans cette période du jazz. Ah, c'est parfait. » C'est comme Bach que nous avons entendu tout à l'heure par Milstein. C'est hors du temps. Rares sont les musiciens où on peut penser une seconde que « Ah, là, c'est quelque chose qui nous sidère complètement, nous prend dans nos entrailles les plus profondes sans que nous ayons des références, voyez, qui viennent encombrer notre audition. » Sans qu'on ait la pensée qui commence à réfléchir sur ce que l'on entend, on est véritablement pris. C'est le propre des chefs-d'œuvre, sauf que là, évidemment, il y a des disques, il y a quasiment des chefs-d'œuvre tout le temps.
C'est une musique à laquelle il n'y a rien d'autre à demander. C'est pour ça, d'ailleurs, que beaucoup de critiques ou d'amateurs un peu pressés ont cru que du fait, il n'y avait en elle pas grand-chose d'autre que sa propre répétition. Et ça n'est pas vrai, précisément.
Et justement, alors, voyez, on va loin. Déjà, nous avançons, Alain. Voyez, cette répétition est totalement, elle est inépuisable d'invention. Et c'est pourtant une répétition. Il y a toujours ce tempo invraisemblable, mais surtout une mélodie. C'est pour ça que j'ai choisi Garner pour toute une émission. C'est qu'il y a un art de la mélodie la couleur et la mélodie, mais une mélodie sans faille qui vient, il crée devant lui, ça entraîne une autre création, ça entraîne une autre phrase, et encore, d'une façon ininterrompue. Et c'est ce jet, moi, qui me fascine. Vous savez, cette notion de couler, cette notion de l'origine de mon rythme réo, je coule, n'est-ce pas, le fait du fleuve qui se déroule. Inexorablement, il y a un aspect inexorable de sa musique. Oui, ça, c'est extraordinaire.
C'est rarissime, au XXe siècle, les artistes qui ont pris plaisir à eux-mêmes.
Oui.
Il y a eu
alors,
des créateurs absolument,
vous me le formulez
absolument
mieux que moi.
Fantastiques, mais oui. Bon, si on prend en littérature, moi, un écrivain que je considère pour être un des plus grands dans notre langue, qui est Céline, bon, ben, Céline est un homme qui n'a... Un jour, au Québec, j'ai participé à une émission qui s'appelait Plaisir à Céline. Je me souviens d'avoir commencé en disant, bah oui, mais il y a au moins quelqu'un qui n'a jamais pris plaisir à Céline, c'est Céline lui-même. Et il y a eu beaucoup, bon, on pourrait dire la même chose avec Van Gogh, la plupart des peintres.
Bien, des peintres, peintres, oui, etc. Certainement.
C'est très rare, les gens qui trouvent leur épanouissement, sans en plus le moindre orgueil,
alors,
la moindre auto-fascination, c'est du plaisir.
Alors c'est là où on touche le fin. On n'a pas affaire à un musicien miné. Regardez autour de vous. Ils sont tous minés. Ils sont tous malheureux. Il y a toujours une chape qui s'abat sur eux, vous comprenez? Et la musique, ça peut ne pas être ça aussi. Alors je vous propose, Alain, si vous voulez bien, un enregistrement. J'ai honte de vous les proposer. Vous les connaissez par cœur, toutes les notes, vous les connaissez.
Mais c'est formidable, hein, parce que Garner ajoute à cause de cela, non pas, comme beaucoup l'ont cru, une superficialité, mais une profondeur.
Profondeur, oui.
Parce que sans cela, le jazz n'était que douloureux, finalement, pour aller vite. Et là, brusquement, on a une perspective qui s'ouvre, et à l'intérieur même de ce paysage, eh bien, il y a ce petit îlot, qui n'est pas non plus un îlot de sérénité, pas du
non,
tout, qui est une source de joie,
une
tout
source
bêtement.
Une source de joie, mais alors, ce qui est incroyable, c'est que cette source est intarissable. Alors, on va écouter une introduction.
Oui, parce que la joie, c'est presque toujours du con, la joie. Hein.
Alors,
pas là, justement.
Voilà, alors on a l'impression, comme vous soulignez tout à l'heure, qu'en fait, il n'y a aucun orgueil de sa part de manifester ça, c'est tout simplement la joie de jouer et la joie de communiquer cette joie de jouer.
Il n'y a pas d'auto-admiration comme on en trouve chez beaucoup d'autres.
Hein. Et puis, il n'y a pas cet aspect, vous savez, regardez comme je joue là, mais regardez comme ça devient formidable ce que je suis en train de faire, regardez le trait que je fais, il n'y a rien de tout ça. On ne sent plus la technique, on n'est plus en train de penser technique, on n'est plus en train de penser musique, on pense à quelque chose qui nous emmène dans un magnifique voyage.
Et jamais rien n'est programmé.
Et
voilà
rien
un homme
programmé.
Qui s'étonne lui-même, mais il n'a même pas décidé qu'il allait s'étonner.
Alors,
c'est comme ça.
C'est magnifique.
Dès qu'il voit un piano, il ne peut plus s'en empêcher.
Alors écoutez Alain, nous sommes le 19 septembre 55, au Carmel, California, Eddie Calhoun, Denzel Best, au ballet, vous imaginez, j'ai choisi les feuilles mortes. Évidemment, aux Tom Leaves. Écoutons cette merveille. Thank you.
Autumn Leaves, les feuilles mortes, un extrait du fameux Concert by the Sea, qui est sans doute le plus éblouissant des excellents albums que Garner a laissé derrière lui après sa mort. Son meilleur disque donc peut-être, et néanmoins un disque qui a bien failli ne pas voir le jour. On pourrait s'étonner qu'un tel album, par exemple, laisse assez mal deviner ce que font le contrebassiste et ce prodigieux batteur que fut Denzil Best. Il ne faut pas s'en étonner, c'est que oui. Cet enregistrement n'était pas du tout destiné à la publication. Oui. C'est l'enregistrement qu'a fait du concert destiné au GI, une radio militaire. Oui. Et finalement, le producteur George Avakian, poussé par l'impresario de Garner, a réussi à récupérer, à éditer des bandes à partir de ce qui avait été enregistré. Donc Garner a joué, peut-être y a-t-il eu des concerts encore meilleurs que celui-là, mais on n'a pas eu la chance qu'ils soient enregistrés. Moi, je voulais dire deux petites choses. La première, c'est que le fait d'être ailleurs par rapport à tous les autres pianistes, ses contemporains et ceux qu'il avait précédé est peut-être et sans doute même responsable en grande partie du fait que cette musique est, je dirais, relativement intemporelle. C'est-à-dire que par rapport à toutes les musiques qui ont pu être produites au piano à la même époque, elle est peut-être celle qui refuse le plus obstinément de vieillir. Et qui refuse de vieillir parce que c'est une musique qui est toujours en train de naître, comme si elle-même ne savait pas qu'elle existait déjà. Vous savez, on dit, il y a des gens, ils inventent la Lune, ils découvrent la Lune. Eh bien, Garner, c'est typiquement le type qui découvre le soleil chaque matin. Il se lève, oh miracle, le soleil est là, formidable, et ça le rend gai pour le reste de la journée.
Ah oui, mais alors là, vous rendez-vous compte de ce que vous dites, Alain, mais c'est extraordinairement ancien, cette pensée que vous avez. En fait, si on va même dans la philosophie ancienne, la philosophie grecque, vous avez les épicuriens et les stoïciens, ils fondent la vie sur le bonheur qui se trouve uniquement dans le moment présent. Donc en fait, le fait de savoir vivre le moment présent, c'est tout un art. Et là, ça nous entraîne très loin, parce que Garner nous fait vivre d'une façon extraordinairement intense le moment présent. Et ça devient quelque chose de tout à fait extraordinaire, dans la mesure où il utilise tout, quand le toucher, par exemple, dans cette vidéo, c'est étonnant, il y a un moment où on voit un de ses doigts quasiment perpendiculaire à la touche. Alors, il est vraiment perpendiculaire, il utilise tout ce qui est possible, imaginable, pour triturer la matière sonore. Il le fait avec une aisance. Alors là aussi, il y a une sorte d'aisance qui est... On a l'impression, évidemment, comme tout chef-d'œuvre, on a l'impression que tout le monde pourrait le faire, et ça glisse comme ça. Alors, qu'est-ce que c'est, la question que je me suis posée, un peu en allant dans votre sens, c'était, qu'est-ce que le bonheur pour un musicien ? C'est là vraiment la question que je me suis posée. Le jouer d'accord, mais quel est le bonheur vraiment du musicien ? C'est d'avoir peut-être trouvé son propre son d'abord, trouvé son style et créer son propre univers et découvrir un univers qui est le fondement de sa vie. Et quand on a découvert ça, on le développe. Et on ne peut, on donne une réponse à la mort. Moi, c'est là que je vois une chose tout à fait extraordinaire. En vivant d'une façon extraordinairement dense le moment présent, on donne une réponse à la mort. Et ça, c'est évidemment toute la philosophie antique qui va dans ce sens-là. Et là, ça nous entraîne très loin. Parce que c'est un homme qui a su vivre. Vous voyez, je crois que un artiste, il doit apprendre. Il apprend aux autres à vivre. Et lui-même, parfois, il a énormément de mal à vivre. Il porte les sacs de charbon et en même temps, il voudrait épanouir son être lui-même et provoquer chez l'autre qui l'écoute cet épanouissement. Et là, il y a quelque chose d'absolument extraordinaire, parce que chez Garner, il y a en même temps une chaleur extraordinaire. Il y a une délicatesse et il y a surtout, peut-être avant tout, ce naturel déconcertant. Vous voyez, c'est ça, un naturel qu'on ne peut pas travailler, qui va au-delà de la technique, de tout ce que nous avons vu, tout ce que nous avons évoqué dans les 8 émissions précédentes, n'existe plus. Vous comprenez ? C'est là où ça devient extraordinairement impressionnant. Parce que là, ça demande, c'est d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte.
Ce qui est très singulier avec lui, comme avec un certain nombre d'autres musiciens, très minoritaires bien sûr, dans le jazz comme ailleurs, c'est que on imagine volontiers, et à raison me semble-t-il, ce qu'on appelle l'épanouissement d'un artiste comme le couronnement d'un processus. Oui. Il est assez difficile même de penser un artiste qui naîtrait dans l'épanouissement. C'est-à-dire que ce fameux univers propre ne serait pas le fruit d'une conquête, mais quelque chose à l'intérieur duquel il ferait lui-même son apparition.
C'est ça, c'est incroyable. Mais c'est incroyable.
Alors, parce qu'on pourrait écouter des morceaux réalisés 10 ans plus tôt. Hein, oui. On aurait affaire au même univers à très très peu de choses près.
Alors, vous voyez, en poussant le bouchon un peu loin, j'ai retrouvé dans « Terre des hommes » de Saint-Exupéry, bien sûr, j'ai retrouvé cette phrase. Saint-Exupéry dit « Quand nous prendrons conscience de notre rôle, même le plus effacé, alors seulement nous serons heureux. Alors seulement nous pourrons vivre en paix et mourir en paix, car ce qui donne un sens à la vie donne un sens à la mort. » Et ça, je pense que Garner correspond exactement à ça. On a l'impression que sa vie, au départ, elle est déjà là. Il s'est donné toutes les armes et il les a eues dans les mains tout de suite, quoi. Pratiquement tout de suite. Il y a des gens qui ont tout de suite et qui ne font que développer. On ne peut pas, comme Milstein le disait dans cette vidéo, dans la musique,
Mais non, on ne peut pas tout expliquer, vous comprenez? Pourquoi expliquer? C'est une maladie des Occidentaux, l'explication. Mais non, mais Alain, sérieusement, sérieusement, pourquoi expliquer des choses qui sont totalement inexplicables? Alors, pour satisfaire notre intelligence, nous allons faire des analyses, nous allons dire que là, il fait ça, là, il a eu ça, là, il a eu telle influence, mais ça ne résout pas le problème fondamental de l'être lui-même tel qu'il est et tel qu'il communique aux autres. C'est quelque chose qui va au-delà de la musique. Et c'est pour ça que c'est tellement impressionnant. C'est Mozart, c'est ces grands mélodistes comme Mozart, Schubert, Schumann, Tchaïkovski, Ravel. C'est des gens qui sont des gens qui ont une sorte de vision intérieure.
En même temps, toute sa sublime. Vie, toute sa vie est dans sa musique, parce que le reste n'est que déplacement.
Hein. Voilà,
voilà un homme qui a commencé à partir en tournée, puis n'a plus jamais, arrêté. Donc, ce que fut sa vie personnelle, je pense qu'il a été à la fois à l'abri des grandes révélations de l'existence, oui. Hélas pour lui, et puis relativement à l'abri des camouflets qu'il aurait pu subir.
Certainement.
Hein, cet homme était à la fois noir et homosexuel, ouais. Dans les années 50, ça faisait beaucoup pour un seul individu.
Bien entendu. Alors, je vous propose, pour aller un peu dans un sens, une des mélodies qui est sublime, n'est-ce pas? Et la manière dont il traite cette mélodie, c'est Lullaby of Birdland de George Shearing, si mes souvenirs sont bons, n'est-ce pas?
Oui, c'est très rigolo ce que raconte Shearing, parce que c'est un morceau qui a fait le tour du monde.
C'est un morceau qui a fait le tour du monde, oui.
Devenant d'ailleurs, ici ou là, y compris en France, une chansonnette, oui. Tout simplement.
Tout simplement, oui. Oui.
Quand elle s'ennuie dans sa mansarde, Lola vient t'écouter, c'est les paroles en français, vous de Lullaby of Birdland.
Oui.
Bon, Shearing raconte que cette mélodie qui lui a donc valu très certainement, sans exagérer, des millions de dollars,
ouais, hein, oui.
Par les droits, il l'a trouvée en quelques instants tout en mangeant un steak. Et il aimait dire « Depuis, j'ai mangé beaucoup de steak, mais j'ai jamais retrouvé de maladie comme ça. »
Alors écoutons encore une autre merveille d'inspirer.
Ah oui, ça c'est
inspirer.
Une des grandes choses.
Voilà,
il l'a enregistré plusieurs fois, je pense que vous avez pris la plus longue,
hein,
parce
écoutez,
que c'est la plus belle.
J'ai pris celle où il joue avec White Rutter à la contrebasse et Eugene Fats Heard à la batterie. Nous sommes en février 53 et ça va du sublime au sublime. Thank you.
En 1953, le Lullaby of Birdland de George Shearing, interprété par Errol Garner, piano, Wyatt Hother, contrebasse et Eugene Fats Heard, batterie.
Oui, en effet, Alain, je voudrais vous emmener encore à une autre vision de notre voyage. Je cherchais toujours une voie pour expliquer mon émerveillement. Et je n'arrivais pas pendant des jours et des jours, en préparant cette émission, dans la rue, n'importe où. Je me disais, je regardais ma bibliothèque, j'étais là, je trouvais pas. Et tout à coup, je me suis dit, mais oui, mais bien sûr, mais oui. Et je me suis rappelé, j'étais toujours fasciné par le grand môle d'Alain Fournier. Et j'ai retrouvé dans Alain Fournier la phrase suivante, que je n'avais pas relue depuis 20 ans au moins. Mon credo, dit Alain Fournier, mon credo en art et en littérature, deux points, l'enfance. Arriver à la rendre sans aucune puérilité, avec sa profondeur qui touche les mystères. Autrement dit, l'enfant est de plein pied dans le merveilleux, à laquelle il adhère comme ça, sans réflexion. Le merveilleux existe tout simplement, il joue avec un château de sable, il a des blocs de cubes devant lui, il les manipule dans tous les sens. Garner, il a un bloc de notes devant lui, il les manipule comme un enfant dans tous les sens, et il s'amuse avec. Il a la joie de s'amuser comme un enfant. Vous comprenez? Comme un enfant. C'est merveilleux. Et de retrouver cette phrase, vous voyez, sans aucune puérilité. Ça ne veut pas dire du tout, on ne grandit pas comme voudrait la psychanalyse. On pourrait en discuter longtemps. Pourquoi grandir, n'est-ce pas? Quelle est la nécessité de grandir? Pour faire plaisir à qui? Comment? Au contraire, restons enfants, mais avec tout ce que ça a d'ingénu, de naturel, de... complètement spontané.
Cela dit,
vous comprenez.
Freud définissait par l'enfance, et le retour à l'enfance plus précisément, le suprême bonheur sur Terre dans une certaine mesure, puisqu'il disait « tu n'atteindras pas le royaume des cieux si tu ne redeviens pas un tout petit enfant ».
En effet, mais là il s'agit même, je dirais, en allant même peut-être plus loin, il ne s'agit même pas d'un retour, c'est qu'il n'est jamais parti, vous comprenez. Il n'a jamais démarré. Il est toujours resté enfant, il est toujours resté comme ça.
Oui, d'ailleurs, il a été soupçonné par certains d'être un peu demeuré, pour dire la vérité.
Ah oui, voilà, oui, tout simplement. Oui, c'est vrai, j'avais oublié de dire ça. Il ne lisait pas la musique aussi. Bon, ça venait comme ça, il travaillait dans tous les sens, quoi. Voilà, il jouait. Alors, la dernière place que nous allons entendre, c'est Memories of You, qui fait partie du même disque. J'avais prévu de passer Passing Through, mais nous n'aurons pas le temps. Et ce Passing Through, vous rendez compte, ça veut dire
passer... ça pour la jubilation, c'est vraiment un des morceaux les plus caractéristiques.
Alors peut-être qu'on va faire Passing Through plutôt que Memories of You. Qu'en pensez-vous?
J'aimerais bien, parce que je crois que ça illustrerait à merveille les propos que nous avons tenus au début de l'émission, donc ça la bouclerait.
Bravo Alain, alors vous savez, Passing Through... Passez au travers de la vie, vous rendez compte? Passez au travers. Thank you.
Passing Through aux côtés d'Errol Garner en 1956, il y avait le contrebassiste Al Hall et le batteur Gordon Spex Powell. Pour qui voudrait savoir ce que signifie ce sobriquet, il vient du mot anglais spectacles, lunettes, ça signifie donc le binoclard ou à peu près.
Merci Alain.
De Black and Blue était mise en page par Françoise Cordet et mise en onde par Marie-Dominique Bougot. Georges Pakzinski se joint à elle et à moi pour vous souhaiter de bien commencer la semaine à l'écoute de France Culture. À dimanche prochain.